France Culture. Les midis de culture. Marie Sorbier.
Bonjour et bienvenue dans les midis de culture. À 13h, je recevrai le pianiste Alexandre Kantorov pour son disque Brahms Schubert. Mais d'abord, débutons l'année ensemble avec de bonnes habitudes. Chaque jour, les midis de culture commencent par un débat critique. Aujourd'hui, ce sont deux films qui retiennent notre attention. Nosferatu de Robert Eggers et Bird d'Andrea Arnold. Il sera donc question de terrifiants vampires et de jeunes filles coincées dans des milieux étouffants. Et peut-être aussi de cinéma. Et pour le savoir, j'accueille nos premiers critiques 2025, Lucille Comeau. Bonjour.
Bonjour Marie.
On écoute tous les matins votre regard culturel à 8h55 dans la matinale de France Culture. Et Antoine Guillot, bonjour.
Bonjour Marie, meilleurs vœux et surtout la santé.
On vous retrouve tous les samedis après-midi pour Plan Large sur France Culture. Bien sûr, bienvenue à tous les deux. Alors avant de nous lancer dans le programme du jour, un petit regard, un premier regard de cinéphile pour se donner envie de plonger dans cette nouvelle année. Est-ce qu'il y a un film ou plusieurs, que vous attendez particulièrement en 2025, Lucille?
Alors moi, j'ai beaucoup entendu parler d'un film que peut-être Antoine a déjà vu, qui s'appelle The Brutalist, qui est un film américain de Bradley Corbett, qu'on connaît pas, Brady Corbett d'ailleurs, qui sort en février et qui est un film de 3h30, si j'ai bien compris, avec entr'acte, ce qui est toujours assez intéressant, et qui est apparemment une énorme fresque. Ça raconte l'histoire d'un émigré hongrois, donc qui littéralement sort des camps de la mort, et qui émigre aux États-Unis. Et à partir de là, je crois que c'est une fable classique de self-made man à l'américaine. C'est avec Adrian Brody, Guy Pearce, et je sais plus quel est le cast féminin, mais c'est aussi assez, assez brillant. Et apparemment, ce film est dingue. Il y a des critiques qui l'ont déjà vu deux fois en disant je suis retourné le voir. Voilà. Donc bon, j'attends de voir ça.
Donc février. Et vous, Antoine Guillot?
Alors moi, j'évite d'attendre parce que c'est la garantie d'être déçu. Mais oui, je peux vous recommander un film qui va sortir en février également, américain également, qui est le passage à la fiction d'un grand documentariste italien, mais qui vit aux États-Unis depuis des années. Il s'appelle Roberto Minervini. Il avait tourné notamment en Texas, en Louisiane, des films comme The Other Side et What You Gonna Do When the World's on Fire. Et là, il va faire un film sur la guerre de sécession, une patrouille perdue dans le Montana, sauf que pour le faire, il a continué sa pratique de documentariste, c'est-à-dire qu'il a pris des gens du cru, mais aussi des gens qu'on avait vus dans ses films précédents. Il va les mettre sur place, il va juste leur dire quelques mots, il leur dit juste, il va y avoir un avant, un pendant et un après la bataille, et maintenant débrouillez-vous et écrivez le film. Et ça donne un film tout à fait étonnant, parce que ça parle à la fois de l'Amérique d'aujourd'hui, parce qu'il filme des corps d'aujourd'hui avec des comportements d'aujourd'hui qui se replongent un peu dans les origines de la des tensions de ce pays qu'est la guerre de sécession. Et c'est totalement passionnant. Ça s'appelle Les Damnés. Quel beau titre.
Quel beau titre. Bon, mais des grandes fresques alors pour février. Vivement février. Allez, on commence ce débat critique avec Nosferatu. Une autre fresque de Robert Eggers en salle depuis le 25 décembre. C'est une fable gothique qui raconte l'histoire d'une attraction terrifiante entre une jeune femme et un vampire. Le réalisateur à qui l'on doit The Witch en 2015 ou The Lighthouse en 2019 s'attaque au chef-d'œuvre de Murnau avec au générique Willem Dafoe et Lily Rose Depp notamment. En une phrase, Lucille Comeau, qu'en avez-vous pensé?
Eh bien, j'ai été assez agréablement surprise par ce film. J'ai, comme on dit, passé un bon moment. Voilà.
Et vous, Antoine Guillot?
Alors moi, je vais être dans l'allitération en P. J'ai trouvé ça pesant, prétentieux, poseur, pompeux, pompier et pénible. Et tout ça se prend les pieds dans le linceul. Pourrissant.
Allez, on écoute un extrait, on développe après.
Come to me. Come to me. Hear my call. Come to me.
Cette créature est une force plus puissante que le mal. Son seul désir est de dévorer la vie sous toutes ses formes. Vous seul avez la capacité de nous sauver.
We are here encountering the vampire. Nosferatu.
Lucille, Lucille comme moi, avez-vous eu peur pendant
oui,
cette
oui,
projection?
J'ai, oui, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Alors, c'est pas Willem Dafoe et son accent un peu allemand sur texte anglais qui m'a fait particulièrement peur. Mais ceci dit, cet accent allemand, il veut dire quelque chose de l'aspiration de ce cinéaste qui est Robert Eggers, qui est vraiment de regarder vers le, disons, de prendre la montagne Nosferatu versant allemand. Donc, en regardant d'abord le film de Murnau, qui est en effet un film de 1922, vous l'avez dit, et il en reprend la fable originelle, c'est-à-dire qu'en fait, ça se passe exactement, c'est à peu près les mêmes ressorts narratifs, donc cette histoire.
Donc l'histoire est conservée telle quelle, on retrouve l'histoire de Nosferatu.
Oui, plus ou moins, donc c'est quand même, oui, il y a ce clerc de notaire qui va vendre au comte Orlok, habitant dans les Carpates, un grand château complètement en ruine, un autre château en ruine, mais plus proche de la ville, Nosferatu voulant se rapprocher de la femme de ce clerc de notaire qui s'appelle Hélène et qui concentre, disons, toute la question du désir et de l'érotisme morbide de la fable de vampire. Donc oui, on retrouve à peu près cette histoire-là. Bon, disons que le personnage féminin est largement développé du côté contemporain de ce qu'on fait aujourd'hui aux jeunes femmes, c'est-à-dire que toute la question tourne autour d'elle, de son désir, est-ce que le vampire n'est pas à l'intérieur d'elle et finalement le mal ne serait pas de son fait, voilà, bon, c'est un peu ça la question. C'est vraiment pas ce qui m'intéresse dans le film, parce que je trouve que tous les passages qui tournent autour de ce personnage féminin et donc de Lily Rose Depp qui l'interprète sont le grand ratage du film. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la première partie, et donc la fable de ce personnage de Claire de Notaire qui va voyager, et c'est très linéairement fait, et c'est, moi, je trouve plutôt bien fait, à la rencontre de ce comte Orlok, qu'on met du temps à découvrir physiquement. Il est interprété par Bill Sarsgaard, mais bon, on met bien une bonne heure à vraiment voir à quoi il ressemble, puisque, disons que Robert Eggers respecte ce mystère de l'apparence du vampire et qu'il n'écombre pendant assez longtemps. Moi, tous ces passages-là, entre ombre et lumière, c'est très classique. C'est plein de tics qui sont empruntés à l'expressionnisme allemand. Je les trouve plutôt réussis et de fait, j'ai sursauté, de fait, j'ai eu peur. Alors que moi, les films horrifiques, vraiment, ça fonctionne quand même pas beaucoup. Il y a un truc de conte, en fait, et c'est un bon conte, voilà, disons.
Antoine Guillaume, dans votre allitération en paix, je me souviens plus si vous avez dit peur ou pas.
Non, alors la peur n'était pas là. Enfin, si, ça m'a fait peur tellement c'est pas bien, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu rapide d'évacuer précisément cette dimension centrée sur le personnage d'Hélène, puisque c'est l'originalité du film et c'est le gros, lourd message du film qui explicite comme jamais tout ce qu'il y a derrière les histoires de vampires, mais en se disant vraiment, voilà, on va faire l'histoire d'une femme ou d'une jeune femme d'abord, débordée par ses désirs, créant un monstre dans sa tête qu'elle appelle de ses vœux et qui va, comment dire, produire une désolation absolue sur la ville. Voilà. C'est très très lourdingue quand même. C'est filmé, c'est un peu la grande idée maintenant. Quand on est une jolie jeune fille, genre Emma Stone, il faut en faire des tonnes pour montrer à quel point on est une grande actrice. Donc là, on a des crises d'hystérie comme on en voyait chez Charcot et qu'il la déborde totalement. Là, on est quasiment dans l'exorciste de Friedkin. Enfin, c'est Linda Blair peut aller se rhabiller après ce que fait Lily Rose Depp, mais ça devient hyper lourdingue, c'est-à-dire c'est sans arrêt le sang des jeunes femmes qui appellent, c'est presque quelqu'un qui appelle quand même l'agresseur sexuel. Et à la fin du compte, on se dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter là? Elle l'a bien cherché. C'est quand même, sous prétexte de faire un grand récit post-MeToo, c'est quand même extrêmement réactionnaire comme film, tout en voulant le dénoncer. C'est-à-dire qu'il y a sans arrêt des scènes de corset. On lui montre ce que c'est qu'être une bonne jeune fille dès qu'elle exprime un peu un désir. Alors, il y a son mari complètement fallo qui, au lieu de faire la nuit de noces, va essayer de chercher fortune dans une Transylvanie. Mais on se dit, comment est-ce qu'on peut encore représenter comme ça, alors, justement, la question, c'est, est-ce que c'est drôle?
Est-ce que c'est volontairement drôle?
Et le personnage de Willem Dafoe, tout d'un coup, m'a assez interloqué. Parce que, au départ, quand j'ai entendu dire qu'il y aurait un film un remake de Nosferatu avec Willem Dafoe, je me suis dit, formidable, il va jouer le vampire, il n'y a même pas besoin de maquillage, il va être parfait dans le rôle. Or, ce qu'il joue, c'est l'équivalent, puisqu'on sait que Nosferatu est un plagiat, pour éviter de payer les droits à l'époque du Dracula de Stoker, il va jouer l'équivalent du chasseur de vampire, le Van Helsing. Et alors, il y a des scènes totalement phénoménales où il est devant la cheminée, fumant sa pipe, et disant je le craignais, elle est possédée. Et là, on se dit, mais on est chez Mel Brooks, en fait. C'est-à-dire qu'il y a toutes les caricatures de ce genre de film dès le début, hein, quand on prononce, c'est le conte Orlok, la pluie se met à tomber.
Donc, on l'entend bien dans la bande-annonce qu'on vient
d'entendre. Donc on se dit, mais est-ce qu'on est dans la parodie? Et non, puisque chez Eger, tout est extrêmement, et c'est là que je disais que c'était pompier et pompeux, c'est qu'il veut faire de la grande image monumentale, mais qui n'est qu'une récupération publicitaire des grandes inspirations expressionnistes. Je fais de l'expressionnisme, alors je vais vous mettre une ombre sur le mur. Vous n'avez pas compris, je vous en mets une deuxième, une troisième, jusqu'à cette main sur la ville qui reprend, on ne sait pas si c'est l'expressionnisme ou les pires caricatures antisémites montrant l'emprise de la juiverie mondiale sur le monde. Là, on se dit, mais en fait, il ne maîtrise pas du tout ce qu'il fait, quoi.
C'est-à-dire qu'à la fois, il maîtrise pas, parce que ce que vous décrivez, je reviens sur ce que vous disiez de la fable féministe potentielle qui, en effet, se retourne complètement en quelque chose d'extrêmement réactionnaire. De toute façon, la représentation de Lily Rose Depp, c'est une représentation vraiment réactionnaire de la femme, donc c'est étonnant. Mais en fait, pourquoi? Parce qu'il a décidé d'adapter littéralement la fable vampirique. Et que dans la fable vampirique, bah oui, il y a sacrifice final de la femme. C'est le principe.
Oui, mais dans les fictions récentes avec des vampires, les vampires étaient représentés de façon plus... humain ou plus tendre. Est-ce que c'est le cas, là?
Mais non, justement, il n'y a pas de parodie. Il n'y a aucun second degré chez Robert Eggers. Il n'y en a pas. Et en même temps, c'est vrai qu'il a il y a presque quelque chose de l'ordre de l'autoparodie, puisque tout ce qu'il contient, tout ce qu'il fait dans ses autres films par ailleurs, de macabre ou de gothique, il les enferme dans des boîtes qui sont des boîtes en effet très publicitaires dans l'esthétique. Donc c'est du macabre Walt Disney, littéralement, tout le temps. Ceci étant dit, moi je trouve que, compte tenu de cette ambition de premier degré, ce film-là, par rapport aux autres que je déteste, hein, The Lighthouse, je trouve vraiment c'est un des pires films qui ait été fait, probablement, je le trouve plutôt honnête dans sa linéarité, encore une fois, et dans le caractère, disons, divertissant du spectacle horrifique qu'il présente. Voilà.
Antoine Guillaume, Werner Herzog avait lui aussi proposé sa version de Nosferatu en 1979. Est-ce que Eggers s'inspire aussi de cette version-là?
Malheureusement, non. Parce qu'il y avait... la question de la mélancolie est celle qui porte effectivement tous ces films sur ces personnages féminins. Sauf que là, c'est vraiment la mélancolie chez Eggers au sens clinique, comme on appelait parfois l'hystérie féminine. Chez Kinski, il y avait une mélancolie générale, mais qui était à la fois portée par le personnage du vampire, qui avait de ne plus être dans un monde qui, dans lequel il pouvait simplement faire quelque chose. Et la mélancolie d'une forme disparue, qui était précisément celle du cinéma allemand d'avant le nazisme. C'est aussi ce que racontait beaucoup le film Kinski. Sauf que le personnage d'Adjani, pour le coup, était une vraie héroïne. C'est-à-dire que ce n'était pas tant le sacrifice que celle qui savait qu'elle avait quelque chose à faire, qu'elle était la seule à pouvoir résoudre la question du mal dans le monde. C'est quand même une portée métaphysique un peu plus élevée que le côté parc d'attraction. Moi, je suis d'accord sur le côté Disney. C'est-à-dire toute ce moment où on s'approche du château, on a l'impression d'être dans un train fantôme avec des plans de drone abominables et des sensations fortes, mais qui, alors là, pour le coup, moi, me laisse complètement froid, quoi. Plus froid que le cadavre du comte.
Mais esthétiquement, ça ressemble à quoi, ces images-là?
Alors, justement, c'est ça qui est assez marrant. C'est qu'en fait, on voit comme Robert Eggers n'a pas vraiment d'idée. Et son directeur de la photographie, qui le suit, je ne sais plus comment il s'appelle, depuis tous ses autres films, n'en a probablement pas vraiment non plus, parce qu'en fait, il fait feu de tout.
On va le dénoncer, il s'appelle Jerrine Blaschke.
Voilà, c'est ça. En plus, il a un nom imprononçable. Il y a un côté... c'est complètement incohérent. Alors, le film joue d'une partition et d'un montage alterné qui n'est pas idiot par ailleurs, qui est qu'il y a deux endroits. Il y a les Carpates où vit le comte. Donc là, c'est filmé comme une espèce de, en effet, mauvaise parodie, même si c'est pas fait exprès, de cinéma allemand. Et puis, il y a le lieu moderne, c'est-à-dire la ville qui représente potentiellement le progrès, mais dans lequel apparemment ça va pas si bien que ça, puisque c'est là où est enfermée la jeune fille qui attend Nosferatu. Et en fait, les deux sont pas du tout filmés pareil. Donc il y a plein d'effets, il y a des milliards de trucs. Et de la même manière, le vampire, il n'est pas du tout filmé de la même façon, selon s'il est dans son village original, son château des Carpates, et quand il arrive finalement en ville. Bon, on ne va pas tout dévoiler peut-être, mais il y a quelque chose de complètement dichotomique et presque contradictoire. C'est-à-dire qu'il n'est pas montré pendant une heure, et c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve que ça fonctionne. Même si c'est
vieille
Disney,
recette,
les ongles gris, de jouer sur la tente et de la peur.
On les aime, les vieilles recettes. Et dans un second temps, il est à l'inverse montré dans une crudité disons horrifique, qui n'est plus du tout le même régime d'horreur, et qui est pour le coup très sur la chair, où on est quasiment dans le film de zombies. Et ça va pas, évidemment que ça va pas.
Mais vous avez passé un bon moment.
Voilà, je reste sur mon impression première, qui est une espèce de premier degré à embrasser comme tel de la narration, juste de la fable, qui fonctionne relativement bien, du moins dans une première partie.
Eh bien, chers auditeurs, allez donc vous faire une idée. Nosferatu de Robert Eggers est en...
C'est le Disney de Noël, hein. C'est le Disney de Noël.
Antoine Guillot, c'est à vous. Vous voulez nous parler d'un film qui sort aujourd'hui en salle et que vous nous recommandez.
Oui, eh bien, on reste dans le registre fantastique contemporain, qui est celui de cette émission en général. Et c'est un film qui s'appelle La Source. C'est un film tunisien de Meriem Jouber. C'est un film qui résonne, et d'ailleurs ce sont les mêmes producteurs avec Les Filles d'Olpha, que vous aviez peut-être vu, sur la responsabilité d'une mère dans le départ de ses filles pour le djihad. Alors là, c'est le contre-champ, c'est la responsabilité des pères dans le départ des fils pour le djihad. Donc on est dans un petit village côtier, village de pêcheurs dans les dunes, et un jour des fils partent. Sauf qu'il y en a un qui revient. Et il revient avec une femme qui est entièrement dissimulée sous son niqab, dont on ne voit que les yeux. Et à partir de son retour, il y a des disparitions mystérieuses qui commencent. Des hommes meurent, se jettent de falaises et on ne sait pas trop ce qui se passe. Je vous dirai pas la fin parce qu'elle est assez étonnante précisément. Mais tout d'un coup, on comprend que si des jeunes garçons partent, c'est peut-être pas tant par attrait pour Allah, pour le djihadisme et pour la révolution islamique, mais peut-être parce que les pères sont quand même totalement écrasants, fatigants, à exiger des choses de leur fils. Le tout est joué extraordinairement par des acteurs que moi je connaissais pas, mais qui ont une présence formidable, et filmé avec une façon, juste là encore, de ce qu'on ne montre pas, l'utilisation de la longue focale notamment, qui met tout l'univers dans un flou généralisé, qui est vraiment très très impressionnant. C'est une réalisatrice passionnante là qu'on découvre, qui s'appelle Meriem Jouber, et c'était en compétition au Festival de Berlin. Ne ratez pas La Source.
12h-13h30, les midis de Culture. Marie Sorbier.
Allez, nous quittons les vampires et les contes pour le réalisme social britannique et le nouveau film de la réalisatrice Andrea Arnold, présenté en sélection officielle en mai dernier à Cannes. Nous sommes dans une petite ville ouvrière du Kent. Bailey a 12 ans, elle vit avec son frère et son père qui s'apprête lui à épouser sa nouvelle compagne. Alors, elle n'est pas très convaincue par ce projet. L'adolescente vaque à sa solitude dans les rues et dans les prés jusqu'à ce qu'elle rencontre Bird, un garçon pas comme les autres.
Hey, baby! Let's go home.
Come what? On.
I've got a surprise for you at home. Let's go. Let's go.
Dad, why are you in such a good mood?
It's a beautiful day. We've got big news.
We're getting married, certainly.
It's not one of these crazy schemes that come to nothing.
So you what? She won't be telling you what to do.
You do me.
Oh, you gotta ask me when you do stuff like this.
You ask me about getting married?
Because I'm an adult. You're fucking 12.
So what?
Antoine, en quelques mots, en une phrase, qu'avez-vous pensé de ce film d'Andrea Arnold?
Eh bien, je dirais que Bird ne vole pas très haut.
Eh bien voilà, la punchline de 2025. Lucille, à vous.
Non, mais c'est pas un mauvais film. Le problème, en fait, c'est qu'il arrive après beaucoup, beaucoup de films qui ressemblent. Donc, ça commence à bien faire.
Alors, Antoine, peut-être... suite à votre avis rapide, est-ce que vous pourriez nous replacer Bird dans la filmographie de la réalisatrice?
Andrea Arnold, on pourrait dire c'est une petite chérie du festival de Cannes. C'est quelqu'un, chaque fois qu'elle présentait un film, elle repartait avec le prix du jury.
Trois, je crois qu'elle en a eu.
Oui, elle en a eu trois. Elle a eu pour Fish Tank, pour American Honey et pour Red Road aussi, son premier. Donc c'est une cinéaste, vous l'avez dit, c'est le réalisme, le naturalisme social britannique, mais un peu pimpé par une énergie comme ça, qui est très poussée, une utilisation outrancière de la musique, on pourra en parler dans Bird, et surtout une utilisation de la couleur, toujours très saturée, et qu'elle va promener. Alors ça devient un peu un système, ça peut marcher en Angleterre, ça marche aussi aux États-Unis, puisque c'est comme ça qu'elle filmait ses personnages dans American American Honey, et c'est en train de faire école. C'est-à-dire c'est une grande influence, notamment sur des jeunes réalisatrices. Aujourd'hui, le Diamant Brut d'Agathe Ridinger, par exemple, doit beaucoup, de façon tout à fait explicite et revendiquée, à Andrea Arnold.
Mais est-ce que vous aviez aimé ses précédents films? Parce que là, vous l'avez quand même taillé dans le vif, celui-ci.
Eh bien, j'avais plutôt aimé les premiers. Red Road, qui n'était pas encore dans ce système-là, sur la surveillance généralisée par caméra de surveillance de la société britannique. Et puis par Fish Tank, parce que voilà, il y avait quelque chose d'un peu nouveau qui arrivait, avec déjà un personnage d'adolescente, un peu énervée, un peu en rupture de tout. Donc ça, au début, on se disait, voilà, ça commence à être intéressant. Et très, très vite, en fait, Andrea Arnold est tombée dans son propre académisme, dans des recettes qu'elle répète, je dirais presque ad nauseam. Et dans ce film-là, manifestement, elle se rend compte elle-même de ses propres limites, des limites de son système. Donc elle essaye d'apporter quelque chose de plus, qui est cette dimension fantastique et ce personnage Bird qu'on n'avait pas encore vu chez elle. Donc au départ, on aurait pu se dire, ah bah tiens, au moins elle se renouvelle. Est-ce que la greffe prend ? Je n'en suis pas persuadé.
Mais justement, Lucille Comeau, est-ce que la greffe prend ? On a l'impression, à vous écouter, qu'il y a un peu deux films en un qui s'inscrit quand même dans ce réalisme social dont on parle, et un autre plus poétique, voire fantastique, mais les deux ne cohabitent pas ?
Bah, c'est toute la question en fait qu'on se pose pendant tout le film. Moi, mon impression première, c'était, je vais revoir Fish Tank, que j'avais aussi plutôt aimé, et c'est vrai que le scénario ressemble tellement, le personnage aussi. Dans Fish Tank, il y a aussi cet amour, cette proximité du personnage féminin, alors même qu'elle habite dans une banlieue londonienne, pour la nature et notamment les chevaux, donc pour les animaux. Là, on retrouve ça très fort dans Bird, évidemment, qui m'a d'abord fait craindre de revoir le même film. Or, en effet, comme elle a tellement fait école entre-temps, c'est compliqué de retrouver cette candeur éventuellement, ou en tout cas cette nouveauté que Fish Tank a portée dans le cinéma britannique. Donc vous me demandiez si ça s'articule. Bah non, ça s'articule pas. C'est-à-dire que il y a ce réalisme social anglais très classique dans les motifs, c'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est très violent. C'est une jeune fille très jeune qui vit avec son père qui lui-même est très jeune, avec un frère qui organise des expéditions punitives pour essayer de punir les parents qui s'occupent pas bien de leurs enfants, ce qui est plutôt pas inintéressant, j'y reviendrai peut-être. Voilà, donc ça, c'est le côté frontal, c'est-à-dire la violence dans la société anglaise aujourd'hui, ce que ça produit, notamment auprès des enfants et des jeunes. Et puis, il y a ce, alors moi je dirais filtre un peu poétique, filtre au sens qu'on peut utiliser dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'en effet, elle filme d'un coup des papillons. À l'écran, on voit les images que la jeune fille filme elle-même, car évidemment, elle filme elle-même avec son téléphone et elle projette ses propres petits films, un peu comme un journal intime visuel sur les murs de sa chambre. Elle habite dans un lieu, et c'est pas inintéressant ça au début, qui est très étrange, qui est une sorte de squat, mais ça ressemble aussi à un lieu un peu féerique parce qu'il y a des couleurs dans tous les sens, avec des enfants un peu perdus. Il y a un côté un peu compte aussi. Et puis, bam, on se prend la violence sociale de la rue, la violence physique, etc., la violence sexuelle dans la gueule, mais elle n'est pas traitée. En fait, le problème de ce filtre poétique, et c'est la même chose dans Diamant Brut, c'est la même chose dans tous les films qui ressemblent à Bourne, c'est qu'il sert de cache-misère, en vérité, que c'est une manière pour le naturalisme dans le cinéma de ne plus s'occuper vraiment de la violence. Et moi, pour moi, il y a un vrai refus de saut d'obstacle. Enfin, c'est-à-dire que il y a un moment où ça devient très très dur, très très grave. Ça se passe dans une maison qui n'est pas la maison de l'héroïne, mais la maison de sa mère qui vit avec un nouveau compagnon, et c'est horrible littéralement. Et c'est là que le fantastique intervient, précisément parce que on ne veut pas traiter la violence.
Le fantastique cache misère pour vous aussi, Antoine Guillaume?
Oui, mais on est effectivement dans de la pure surface, c'est-à-dire que on a tout cet aspect, mais dès que ça devient un peu grave, on sait pas quoi en faire. C'est très surprenant. Moi, je trouve il y aurait eu des perspectives assez intéressantes, notamment sur le fait que ce soit une filmeuse. C'est-à-dire que c'est le côté autoportrait d'Andrea Arnold, hein, elles le disent, hein, c'était son projet le plus personnel. Donc on sait qu'elle a eu elle-même une enfance un peu compliquée dans le même genre de décor. Donc c'est quelqu'un qui filme, mais qui ne filme que de la petite image poétique.
Des oiseaux, qu'elle projette.
Elle est passionnée par les oiseaux, donc elle filme des mouettes, elle projette ses mouettes sur son plafond. Et là où ça devenait plus intéressant, c'est comment le filmage devient une arme. Comment les images deviennent une arme. C'est-à-dire que le premier réflexe qu'elle a quand elle voit quelqu'un arriver, c'est d'abord de le filmer, mais pas parce qu'elle a une pulsion scopique, c'est faire preuve. C'est-à-dire, si jamais tu m'agresses, j'aurai la preuve que tu m'as agressé. Si je vais chez mon beau-père, dans la nouvelle famille, je vais filmer pour avoir de la preuve et pouvoir le confronter. Donc ça aurait été une perspective intéressante sur comment, effectivement, aujourd'hui, l'image est devenue un outil de punition, de chantage, de preuve également judiciaire.
De protection.
C'est un changement majeur, quand même, dans la façon... Mais pareil, elle n'en fait rien.
Elle ne le traite pas, c'est-à-dire que le personnage filme, et finalement, c'est pas théorisé ensuite.
Elle ne sait pas quoi en faire, c'est ça qui est assez déroutant. Moi, je prends vraiment cette, comme l'a dit Lucille, cette irruption du fantastique comme une sorte de deus ex machina. Comment je vais m'en sortir? Ah bah tiens, je vais mettre ça. Or, là encore, la fable aurait eu quelque chose de très puissant. C'est quand même l'histoire d'une jeune fille qui est encore indéterminée dans son genre, dans sa façon de s'habiller. Si elle veut pas aller à ce mariage, c'est pas parce que ça l'ennuie que son père se marie, c'est qu'elle veut pas porter la robe grotesque, la tenue léopard violette qu'on lui impose. Donc elle veut rester dans cette enfance, en fait. Et le personnage de Bird, c'est un Peter Pan par excellence. Sauf que là encore, elle n'en fait rien. Il y a une cruauté quand même dans la fable de James Barry sur le rôle de Peter Pan, qui est quand même celui qui tue les enfants qui veulent grandir, hein, en gros. Et là, on a un personnage simplet, complètement falot, inutile, qui régulièrement qu'on va filmer en haut d'un immeuble, comme ça, comme un oiseau. L'utilisation des oiseaux, non, mais le corbeau, pitié. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une métaphore aviaire générale, dont là encore, elle ne sait pas quoi faire.
Il y a des crapauds aussi, hein.
Oui, il y a des crapauds hallucinogènes. Ça c'est plutôt intéressant.
En fait, le personnage du père, qui est interprété par Barry Cogan, qui est par ailleurs un très bon acteur, et qui est un père-enfant, il est très intéressant. Il y a plusieurs personnages secondaires qui sont beaucoup plus intéressants que la fable principale. Et dans ces personnages secondaires, paradoxalement, réside, je pense, quelque chose d'une sincérité qui est probablement liée à l'expérience personnelle de cette réalisatrice. En tout cas, d'honnêteté dans le regard qu'on ne retrouve pas à l'échelle du film.
Sans doute qu'il faudrait qu'Andrea Arnold filme des hommes plutôt que des jeunes filles.
Oui,
maintenant.
C'est probable.
Eh bien voilà, le message est passé. Bird d'Andrea Arnold sort aujourd'hui en salle. Vous retrouverez toutes les informations sur ces films et le podcast de cette émission, comme de toutes les précédentes, sur la page d'Émilie de Culture et sur le site franceculture.fr.